Frédéric Nietzsche, Généalogie de la morale, troisième dissertation. 20. Mais déjà l'on m'aura compris. Il suffit, n'est-ce pas, tout bien considéré, que nous autres psychologues, nous ne puissions nous débarrasser d'une certaine méfiance envers nous-mêmes. Vraisemblablement, nous sommes encore trop bons pour exercer notre métier. Vraisemblablement, nous aussi, nous sommes encore les victimes, la proie, les patients de ce goût du jour, entaché de morale, quel que soit le mépris que nous lui vouons. Il est probable que, nous aussi, nous en soyons encore infectés. Contre quoi voulait donc mettre en garde ce diplomate parlant à ses pareils? Surtout, messieurs, méfions-nous de nos premiers mouvements. Ils sont presque toujours bons. C'est ce langage que devrait tenir aujourd'hui tout psychologue en s'adressant à ses semblables. Et ceci nous ramène à notre problème qui réclame en effet de nous une certaine rigueur et surtout une certaine méfiance à l'égard des premiers mouvements. L'idéal ascétique au service d'un but, le débordement des sentiments. Celui qui a présent à la mémoire la précédente dissertation devinera déjà en substance ce qui reste à dire. Faire sortir l'âme humaine de tous ses gonds, la plonger dans la terreur, la glace, l'ardeur et le ravissement, à un tel point qu'elle en oublie, comme par un coup de baguette magique, toutes les petites misères de son malaise, de son déplaisir et de son dégoût. Comment arriver à ce but? Et quelle voie est la plus sûre? Au fond, toutes les grandes passions sont bonnes, pour peu qu'elles puissent se donner carrière brusquement, que ce soit la colère, la crainte, la volupté, la haine, l'espérance, le triomphe, le désespoir ou la cruauté. En effet, sans hésitation, le prêtre ascétique a pris à son service toute la meute des chiens sauvages qui hurlent dans l'homme, pour déchaîner, selon le besoin, tantôt celui-ci, tantôt celui-là, dans un but unique, réveiller l'homme de sa longue tristesse, chasser, du moins pour un temps, sa sourde douleur, sa misère hésitante, et cela toujours guidé par une même interprétation, par une justification religieuse. Tout débordement de ce genre se paie par la suite, cela se conçoit. Les malades en deviennent plus malades. Et c'est pourquoi cette façon de porter remède à la douleur est, selon nos conceptions modernes, une façon coupable. Il faut pourtant, l'équité l'exige, faire bien remarquer qu'elle a été appliquée à bonne intention, que le prêtre ascétique a eu pleinement foi en son efficacité, qu'il crut même indispensable de la prescrire, et qu'assez souvent, il faillit périr lui-même au spectacle de la souffrance dont il était l'auteur. Remarquons aussi que les terribles revanches physiologiques de tels excès, peut-être même les troubles intellectuels qui les suivent, ne sont pas en contradiction absolue avec l'esprit général de ce genre de médication. Car il ne s'agissait pas, nous l'avons vu, de guérir des maladies, mais de combattre le malaise et la dépression par des adoucissants et des narcotiques. C'est de cette façon que le but a été atteint. Le tour d'adresse que se permit le prêtre ascétique pour arracher à l'âme humaine cette musique déchirante et extatique a pleinement réussi. Chacun sait qu'il a su tirer parti du sentiment de culpabilité. Le problème de l'origine de ce sentiment a été indiqué brièvement dans la précédente dissertation. Question de psychologie animale, pas davantage. Le sentiment de la faute s'est présenté à nous, pour ainsi dire, à l'état brut. Ce n'est que dans les mains du prêtre, ce véritable artiste, pour le sentiment de la faute, que ce sentiment a commencé à prendre forme. Et quelle forme? Le péché, car tel est le nom donné par le prêtre à la mauvaise conscience animale de la cruauté tournée à rebours. Le péché est resté jusqu'à présent l'événement capital dans l'histoire de l'âme malade. Il représente pour nous le tour d'adresse le plus néfaste de l'interprétation religieuse. L'homme, souffrant à son propre sujet pour une cause quelconque, physiologique certainement, a peu près comme une bête en cage, trouble, indécis, incertain des raisons et des causes, cherchant le pourquoi des choses, car les certitudes procurent des soulagements, cherchant aussi des remèdes et des narcotiques. L'homme finit enfin par s'entendre avec quelqu'un qui connaît même ce qui est caché. Et voici, il obtient une indication. Son sorcier, le prêtre ascétique, lui donne la première indication sur la cause de sa souffrance. Il doit la chercher en lui-même, dans une faute commise dans le temps passé. Il doit interpréter sa douleur elle-même comme un châtiment. Il a entendu, il a compris le malheureux. Maintenant, il en est de lui comme de la poule autour de laquelle on a tracé une ligne. Il n'arrive plus à sortir de ce cercle de lignes. De malade, le voilà devenu pécheur. Dès lors, pour des milliers d'années, se dresse devant les yeux le spectacle de ce nouveau malade, le pécheur. En sera-t-on jamais débarrassé? De quelque côté qu'on se tourne, partout, le regard hypnotisé du pécheur, toujours fixé dans la même direction, celle de la faute, seule cause de la souffrance. Partout la mauvaise conscience, pour employer l'expression de Luther. Partout le passé qui revient, le fait dénaturé, l'action vue d'un mauvais œil. Partout la méconnaissance volontaire de la souffrance, devenue chose capitale. La douleur, transformée en sentiment de faute, de crainte, de châtiment. Partout, la discipline, le corps émacié, la contrition. Partout, le pécheur qui se torture lui-même sur la roue cruelle d'une conscience inquiète et voluptueusement malade. Partout, la peine muette, la peur affreuse, l'agonie du cœur martyrisé, les spasmes d'un bonheur inconnu, le cri désespéré vers le salut. Et vraiment, grâce à cette façon d'agir, l'ancienne dépression, la lourde lassitude finissait par être totalement surmontée. La vie redevenait très intéressante. Éveillé, toujours éveillé, même la nuit, ardent, carbonisé, épuisé, et point fatigué cependant. Tel apparaissait l'homme, le pécheur, initié à ces mystères. Ce vieux sorcier dans la lutte contre le malaise, le prêtre ascétique, avait visiblement remporté la victoire. Son règne était venu. Déjà, on ne se plaignait plus de la douleur. On avait soif de douleur. Souffrir, toujours souffrir, encore de la souffrance. Tel fut le cri de ses disciples et des initiés pendant des siècles. Toute débauche douloureuse du sentiment, tout ce qui brise, renverse, écrase, arrache et ravit en extase, le secret de la torture, les inventions de l'enfer même, tout cela était découvert maintenant, deviné, utilisé. Tout était au service du sorcier pour servir au triomphe de son idéal, de l'idéal ascétique. « Mon royaume n'est pas de ce monde », répétait-il avant comme après. Avait-il vraiment encore le droit de parler ainsi? Goethe a prétendu qu'il n'y avait que 36 situations dramatiques. À cela seul, on devinerait, si on le savait déjà, que Goethe n'était pas un prêtre ascétique. Celui-ci en connaît davantage. 21. Au sujet de toute cette médication sacerdotale, la coupable, le moindre mot de critique serait superflu. Qu'un pareil débordement du sentiment, paré bien entendu des noms les plus saints et tout pénétré de la sainteté de son but, ait jamais été utile à un malade confié aux soins du prêtre ascétique, qui aurait la fantaisie de le prétendre? Du moins, faudrait-il s'entendre sur le sens du mot « utile ». Veut-on dire par là qu'un tel système de traitement a rendu l'homme meilleur? Je n'y contredirai pas. Mais j'ajouterai que, pour moi, rendre meilleur signifie domestiquer, affaiblir, décourager, raffiner, amollir, efféminer. Rendre meilleur serait donc presque synonyme de dégrader. S'il s'agit avant tout d'être malade, mal à l'aise, déprimé, un tel système, à supposer qu'il rende le malade meilleur, le rendra certainement plus malade. Qu'on interroge donc un médecin aliéniste sur les résultats d'une application méthodique des tortures de la pénitence, d'un usage continuel de contrition et d'extase mystique. Qu'on interroge aussi l'histoire. Partout où le prêtre ascétique a appliqué son traitement, la maladie s'est développée avec une promptitude et une intensité inquiétantes. Quel a toujours été le résultat? Le bouleversement du système nerveux ajouté à la maladie antérieure. Et cela, en général, comme dans les cas particuliers, pour les individus comme pour les masses. Comme conséquence, au training de la pénitence et de la rédemption, nous trouvons les épidémies d'épilepsie les plus épouvantables et les plus violentes que l'histoire connaisse. Entre autres, la danse de Saint-Guy et de Saint-Jean au Moyen-Âge. Nous trouvons d'autre part des manifestations secondaires telles que d'épouvantables paralysies et de longues dépressions, à la suite desquelles, parfois, le tempérament d'un peuple ou d'une ville, Genève, Bâle, tourne pour toujours à l'opposé de ce qu'il était. À ceci se rattache aussi l'hystérie des sorcières, qui avait quelque chose de commun avec le somnambulisme. 8 grandes épidémies, rien qu'entre les années 1564 et 1605. Nous trouvons encore, parmi les phénomènes analogues, le délire collectif de ces fervents de la mort dont l'horrible cri « Et vive à la morte !» retentit dans toute l'Europe, interrompu par des idiosyncrasies tantôt voluptueuses, tantôt enragées de destruction. Du reste, les mêmes alternatives de passion, avec les mêmes intermittences et les mêmes sursauts, s'observent encore aujourd'hui, partout où la doctrine ascétique du péché est accueillie avec une faveur marquée. La névrose religieuse apparaît avec tous les symptômes du haut mal, le fait n'est pas douteux. Ce qu'elle est, quoi héritur? En résumé, l'idéal ascétique et son culte de morale sublimée, cette systématisation ingénieuse, hardie et périlleuse de tous les moyens tendant à un débordement du sentiment, exercée sous le couvert d'un but sacré, est inscrite en caractères terribles et ineffaçables dans toute l'histoire de l'humanité. Hélas, non pas seulement dans son histoire. Je ne connais pas de principe qui, autant que cet idéal, a miné la santé et la vigueur des races, surtout des Européens. Sans exagération, on peut l'appeler le fléau par excellence dans l'histoire sanitaire de l'homme en Europe. Tout au plus, pourrait-on mettre en parallèle une influence spécifiquement germanique. J'entends l'empoisonnement de l'Europe par l'alcool, qui a toujours marché de pair avec la prépondérance politique et la prépondérance de la race des Germains. Où ils ont inoculé leur sang, ils ont aussi inoculé leur vice. En troisième lieu, dans la série, il faudrait nommer la syphilis, Magno sed proxima intervallo. 22. Le prêtre ascétique a corrompu la santé de l'âme partout où il a exercé sa domination. En conséquence, il a aussi corrompu le goût in artibus et litteris. Il le corrompt encore. Par conséquent, j'espère que l'on m'accordera tout simplement ces conséquences et que je n'aurai du moins plus besoin d'en faire la démonstration. Un mot seulement concernant le livre capital de la littérature chrétienne, son modèle, son livre par excellence. Au milieu même de la splendeur gréco-romaine, qui était aussi une splendeur littéraire, en face du monde des lettres antiques, qui existait encore dans son entier, sans tares et sans lacunes, à une époque où l'on pouvait encore lire quelques livres pour la possession desquels on donnerait aujourd'hui des littératures entières, la naïveté vaniteuse de quelques agitateurs chrétiens, on les appelle « pères de l'Église », osa déjà décréter. Nous aussi, nous avons notre littérature classique. Nous n'avons pas besoin de celle des Grecs. Et sur ce, on montrait fièrement des livres de légendes, des épîtres apostoliques, de petits traités apologétiques, à peu près comme aujourd'hui, à l'aide d'une littérature analogue, l'armée du salut anglaise combat le bon combat contre Shakespeare et d'autres païens. Je n'aime pas le Nouveau Testament, on le devine. Cela m'inquiète presque d'être ainsi seul de mon avis au sujet de ce livre, si estimé et si surfait. Le goût de près de 2000 ans s'élève contre moi. Mais qu'y faire? Me voici, je ne puis faire autrement. J'ai le courage de ma mauvaise conscience. L'Ancien Testament, c'est là une toute autre affaire. Respect à l'Ancien Testament. Chez lui, je trouve de grands hommes, un décor héroïque, et, chose rare entre tout en ce monde, l'inestimable naïveté du cœur fort. Bien plus, j'y trouve un peuple. Dans le nouveau, par contre, règne le remue-ménage de toutes sortes de petites sectes, le rococo de l'âme, quelque chose de contourné, d'anguleux et de bizarre, l'atmosphère des conventicules, sans omettre parfois un souffle de douceur bucolique qui sent bien son époque et sa province romaine, et qui du reste est plutôt hellénique que judaïque. L'humilité et l'air important se donnent la main. Il y a là une loquacité des sentiments qui assourdit presque. De l'emballement, pas de passion. une mimique pitoyable. Il est évident que toute éducation solide faisait défaut. Comment pouvaient-ils tant faire état de leurs petites imperfections, ces pieux bons hommes? Personne ne s'en occupe, et Dieu moins que personne. Pour finir, ils veulent encore avoir la couronne de la vie éternelle, ces petites gens de province. Pourquoi donc? Dans quel but? C'est d'une impudence qui n'a pas de nom. Un Pierre immortel, qui donc supporterait cela? Ils ont un orgueil qui prête vraiment à rire. Cela ne cesse de rabâcher ses affaires personnelles, ses sottises, ses tristesses, ses soucis mesquins, comme si l'essence des choses était obligée de s'en préoccuper. Cela n'est jamais là de mêler Dieu dans les plus petits chagrins où il s'embourbe. Et ce perpétuel tutoiement de mauvais goût dans les rapports avec Dieu. Cette familiarité judaïque, et non seulement judaïque, familiarité de la gueule et de la patte avec Dieu. Il y a dans l'Asie orientale de petits peuples païens méprisés dont ces premiers chrétiens auraient pu apprendre quelque chose en fait de tact dans la vénération. Ces peuples ne se permettent pas, les missionnaires chrétiens en font foi, de prononcer même le nom de leur Dieu. Cela me paraît d'une délicatesse charmante. Mais assurément c'est trop délicat, non pas seulement pour les premiers chrétiens. Pour marquer l'opposition, qu'on se souvienne de Luther. Le paysan le plus éloquent et le plus immodeste qu'ait connu l'Allemagne, et du ton qui lui plaisait par-dessus tout dans ses entretiens avec Dieu. La guerre entreprise par Luther contre les saints, médiateurs de l'Église, et en particulier contre le pape, ce porc du diable, n'était en somme, cela est certain, que la rébellion d'un rustre à qui déplaisait la bonne étiquette de l'Église, cette étiquette cérémonieuse du goût hiératique, qui ne permettait l'approche du Saint des Saints qu'aux plus consacrés et aux plus silencieux, et laissait les rustres au dehors. Une fois pour toutes, les gens mal appris ne devraient pas avoir la parole, surtout ici. Mais Luther le paysan l'entendait tout autrement. Cela n'était pas assez allemand pour lui. Il voulait avant tout parler directement, en personne, sans gêne avec son Dieu. Eh bien, il l'a fait. L'idéal ascétique, on le conçoit, ne fut jamais et nulle part une école de bon goût, encore moins de bonne manière. Il fut, au meilleur cas, une école de manière hiératique. C'est qu'il renferme en lui quelque chose qui est fatal aux bonnes manières, le manque de mesure, la haine de la mesure. Il est lui-même un non plus ultra. L'idéal ascétique n'a pas seulement corrompu le goût et la santé, il a encore corrompu une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième chose. Je me garderai bien de les énumérer toutes, je n'en finirai pas. Ce n'est pas l'action de cet idéal que je veux mettre en lumière ici, seulement sa signification, ce qui laisse deviner, ce qui est caché derrière lui, sous lui, en lui, ce dont il est l'expression provisoire, obscure, chargé de points d'interrogation et de malentendus. Et ce n'est que pour atteindre ce but que je ne devais pas épargner à mes lecteurs un aperçu de son action monstrueuse et aussi un aperçu de son action néfaste, afin de les préparer enfin au dernier aspect, l'aspect le plus formidable que la question du sens de cet idéal puisse prendre à mes yeux. Que signifie la puissance de cet idéal, sa monstrueuse puissance? Pourquoi lui a-t-on cédé tant de terrain? Pourquoi ne lui a-t-on pas opposé plus de résistance? L'idéal ascétique exprime une volonté. Où se trouve la volonté adverse en qui s'exprime un idéal adverse? L'idéal ascétique a un but. Celui-ci est assez général pour qu'en dehors de lui, tous les intérêts de l'existence humaine paraissent bornés, mesquins, étroits. À la poursuite de ce but, il emploie les temps, les peuples, les hommes. Il n'admet aucune autre interprétation, aucun autre but. Il rejette, nie, affirme, confirme uniquement dans le sens de son interprétation. Existe-t-il, du reste, jamais, un système d'interprétation plus conséquent et d'invention plus ingénieuse? Il ne s'assujettit à aucune puissance. Il croit, au contraire, à sa prééminence sur toute puissance. Il croit absolument avoir le pas sur toute autre puissance. Il est persuadé que toute puissance sur terre doit d'abord recevoir de lui un sens, un droit à l'existence, une valeur comme instrument de son œuvre, comme voie et moyen vers son but, but unique. Où est l'antithèse de ce système défini de volonté, de but et d'interprétation? Cette antithèse, pourquoi manque-t-elle? Où est l'autre but unique? On me répondra qu'il existe, que non seulement il a lutté longtemps et avec succès contre cet idéal, mais encore qu'il l'a vaincu sur presque tous les points importants. Notre science moderne tout entière en porterait témoignage. Cette science moderne qui, véritable philosophie de la réalité, n'aurait évidemment foi qu'en elle-même, aurait évidemment seule le courage, la volonté d'elle-même, et jusqu'ici aurait fort bien su se passer de Dieu, de l'au-delà et des vertus négatives. Cependant, tout ce tapage et ce bavardage d'agitateur ne fait pas la moindre impression sur moi. Ces trompettes de la réalité sont de piètres musiciens. Leurs voix ne sortent pas assez intelligibles des profondeurs. Ils n'expriment pas l'abîme qu'il y a dans la conscience scientifique, car aujourd'hui, la conscience scientifique est un abîme. Le mot « science » dans les gueules de pareils tapageurs est simplement un abus et un attentat à la pudeur. Prenez le contre-pied de ce qu'ils disent et vous aurez la vérité. La science, aujourd'hui, n'a pas la moindre foi en elle-même. Elle n'aspire pas à un idéal élevé. Et là où il lui reste encore de la passion, de l'amour, de la ferveur, de la souffrance, là encore, bien loin d'être l'antithèse de cet idéal ascétique, elle n'en constitue que la forme la plus nouvelle et la plus noble. Cela vous paraît-il étrange? Il est vrai qu'il y a parmi les savants d'aujourd'hui pas mal de braves gens, travailleurs et modestes, à qui plaît leur petit coin retiré, et qui, parce qu'ils s'y sentent à l'aise, élèvent parfois la voix, avec la prétention immodeste de revendiquer un contentement général, surtout dans la science. Il y a là tant de choses utiles à faire. Je n'en disconviens pas. Pour rien au monde, je ne voudrais troubler le plaisir que ces travailleurs prennent à leur métier, car je me réjouis de leur besogne. Mais s'il est vrai qu'à présent l'on travaille énergiquement dans le domaine scientifique et qu'il y a des travailleurs satisfaits de leur sort, il reste à prouver que la science, en tant que bloc, possède aujourd'hui un but, une volonté, un idéal, une passion de foi ardente. C'est tout le contraire ainsi que je l'ai indiqué. Lorsqu'elle n'est pas la plus récente manifestation de l'idéal ascétique, il s'agit là de cas trop rares, trop choisis et trop distingués pour que le jugement général en soit influencé. La science est aujourd'hui le refuge de toutes sortes de mécontentements, d'incrédulité, de remords, de despectio sui, de mauvaise conscience. Elle est l'inquiétude même du manque d'idéal, la douleur de l'absence d'un grand amour, le mécontentement d'une tempérance forcée. Oh, que de choses la science ne dissimule-t-elle pas aujourd'hui? Que de choses, du moins, ne doit-elle pas dissimuler? La capacité de nos plus éminents savants, leur application ininterrompue, leur cerveau qui bout nuit et jour, leur supériorité manouvrière elle-même, combien souvent tout cela a pour véritable objet de s'aveugler volontairement sur l'évidence de certaines choses. La science comme moyen de s'étourdir. Connaissez-vous cela? On les blesse parfois au vif. Tous ceux qui sont en rapport avec des savants savent cela. On les blesse profondément par un mot tout à fait inoffensif. On s'aliène la sympathie de ses amis savants au moment où l'on croit leur rendre hommage. On les met hors d'eux-mêmes, simplement parce que l'on n'a pas été assez fin pour deviner à qui on a affaire. À des êtres qui, souffrant, sans vouloir s'avouer ce qu'ils sont, qui s'étourdissent, se fuient eux-mêmes et n'ont qu'une crainte, avoir conscience de ce qu'ils sont en réalité. 24. Et maintenant, examinons ces cas exceptionnels dont je parlais tantôt. Ces derniers idéalistes qui soient aujourd'hui parmi les philosophes et les savants. Trouve-t-on peut-être en eux les adversaires désirés de l'idéal ascétique, les anti-idéalistes de cet idéal? C'est là, en effet, ce qu'ils croient être ces incrédules, car cela ils le sont tous. Être les adversaires de cet idéal. C'est là précisément ce qui semble constituer leur dernier reste de foi, tant sur ce point leurs discours, leurs gestes sont passionnés. Mais est-ce là une raison pour que ce qu'ils croient soit vrai? Nous, qui cherchons la connaissance, nous nous défions précisément de toute espèce de croyant. Notre défiance nous a, peu à peu, enseigné à tirer à cet égard des conclusions inverses de celles qu'on tirait jadis. Je veux dire, à conclure, partout où la force d'une croyance apparaît au premier plan, que cette croyance a des bases quelque peu fragiles, ou même qu'elle est invraisemblable. Nous aussi, nous ne nions pas que la foi sauve, mais pour cette raison même, nous nions que la foi prouve quelque chose. Une forte foi, moyen de salut, fait naître des soupçons à l'égard de son objet. Elle n'est pas un argument en faveur de la vérité, mais seulement d'une certaine ressemblance, de l'illusion. Or, qu'arrive-t-il dans ce cas? Les négateurs, ces isolés du temps présent, ces esprits intransigeants qui prétendent à la netteté intellectuelle, ces esprits durs, sévères, obstinants, héroïques, qui sont l'honneur de notre temps, tous ces pâles athées, antéchristes, immoralistes, nihilistes, ces sceptiques, ces incrédules et autres rachitiques de l'esprit, ils le sont tous en quelque façon, ces derniers idéalistes de la connaissance, en qui seuls aujourd'hui résident et s'incarnent dans la conscience intellectuelle. Ils se croient en effet aussi détachés que possible de l'idéal ascétique. Ces libres, très libres esprits, et cependant, je vais leur révéler une chose qu'ils ne peuvent voir eux-mêmes, car ils manquent de l'éloignement nécessaire. C'est que cet idéal est précisément aussi leur idéal. Ils en sont eux-mêmes les représentants aujourd'hui plus que personne peut-être. Ils sont sa forme la plus spiritualisée. Ils sont l'avant-garde de ses troupes d'éclaireurs et de guerriers, sa forme de séduction la plus captieuse, la plus délicate et la plus insaisissable. Si, en quelque chose, je suis déchiffreur d'énigmes, je veux l'être avec cette affirmation. Non, ceux-ci sont loin d'être des esprits libres, car ils croient encore à la vérité. Lorsque les croisés se heurtèrent en Orient sur cet invincible ordre des assassins, sur cet ordre des esprits libres par excellence, dont les affiliés de grades inférieurs vivaient dans une obéissance telle que jamais ordre monastique n'en connut de pareille, ils obtinrent, je ne sais par quelle voie, quelques indications sur le fameux symbole, sur ce principe essentiel dont la connaissance était réservée aux dignitaires supérieurs, seuls dépositaires de cet ultime secret. Rien n'est vrai, tout est permis. C'était là de la vraie liberté d'esprit, une parole qui mettait en question la foi même en la vérité. Aucun esprit libre européen, chrétien, s'est-il jamais égaré dans le mystère de cette proposition, dans le labyrinthe de ses conséquences? Connaît-il par expérience le minotaure de cette caverne? J'en doute, ou, pour mieux dire, je sais qu'il en est autrement. Rien n'est plus étranger à ces soi-disant esprits libres, à ces esprits absolus sur un seul point, que la liberté, l'affranchissement de toute entrave, entendue dans ce sens. Les liens les plus étroits sont précisément ceux qui les attachent à la foi en la vérité. Personne plus qu'eux n'y est plus solidement enchaîné. Je connais tout cela, de trop près peut-être. Cette louable abstinence philosophique qu'ordonne une telle foi, ce stoïcisme intellectuel qui finit par s'interdire tout aussi sévèrement le non que le oui, cette immobilité voulue devant la réalité, devant le factum brutum, ce fatalisme des petits faits, ce petit fatalisme comme je le nomme, où la science française cherche maintenant une sorte de prééminence morale sur la science allemande, ce renoncement à toute interprétation, à tout ce qui est violence, ajustage, abréviation, omission, remplissage, amplification, bref, à tout ce qui appartient en propre à l'interprétation. Tout cela, pris en bloc, est aussi bien l'expression de l'ascétisme par vertu que n'importe quelle négation de la sensualité. Ce n'est là, au fond, qu'un cas particulier de cette négation. Mais la force qui pousse à cet ascétisme, cette volonté absolue de la vérité, c'est, que l'on ne s'y trompe pas, la foi dans l'idéal ascétique lui-même, sous la forme de son impératif inconscient. C'est la foi en une valeur métaphysique, en une valeur par excellence de la vérité, valeur que seul l'idéal ascétique garantit et consacre. Elle subsiste et disparaît en même temps que lui. Il n'y a, en bonne logique, pas de science inconditionnelle. La seule pensée d'une telle science est inconcevable, paralogique. Une science suppose nécessairement une philosophie, une loi préalable qui lui donne une direction, un sens, une limite, une méthode, un droit à l'existence. Celui qui veut procéder inversement et se dispose par exemple à fonder la philosophie sur une base strictement scientifique, devra d'abord placer la tête en bas. Non seulement la philosophie, mais même la vérité, ce qui serait un manque d'égard bien choquant envers deux personnes aussi vénérables. Sans doute, et je laisse ici la parole à mon gai savoir, voyez livre 5, aphorisme 344, l'homme véridique, véridique dans ce sens extrême et téméraire que suppose la foi dans la science, affirme par là sa foi en un autre monde que celui de la vie, de la nature et de l'histoire. Et dans la mesure où il affirme cet autre monde, eh bien, son antithèse, ce monde-ci, notre monde, ne devra-t-il pas le nier? C'est toujours encore une croyance métaphysique sur quoi repose notre foi en la science. Nous aussi, nous autres penseurs d'aujourd'hui qui cherchons la connaissance, athées et anti-métaphysiciens, nous aussi, nous prenons encore notre ardeur à cet incendie qu'une croyance plusieurs fois millénaire a allumé, à cette foi chrétienne qui fut aussi la foi de Platon, que Dieu est la vérité et que la vérité est divine. Mais quoi, si précisément cela devenait de moins en moins digne de foi, si rien n'apparaissait plus comme divin, si ce n'est l'erreur, l'aveuglement, le mensonge, si Dieu lui-même se trouvait être notre mensonge, un mensonge qui a le plus duré. Il convient ici de faire une pause et de méditer longuement. La science elle-même a besoin désormais d'une justification, ce qui ne veut même pas dire qu'il en existe une pour elle. Interrogez sur ce point les philosophies les plus anciennes et les plus récentes. Il n'en est point qui ait conscience que la volonté de vérité elle-même puisse avoir besoin d'une justification. Il y a là une lacune dans toutes les philosophies. D'où cela vient-il ? C'est que, jusqu'ici, l'idéal ascétique a dominé toutes les philosophies, que la vérité a toujours été posée comme essence, comme Dieu, comme instance suprême, que la vérité ne devait pas être envisagée comme problème. Comprend-on ce « devait » ? Depuis le moment où la foi dans le Dieu de l'idéal ascétique a été niée, il se pose aussi un nouveau problème, celui de la valeur de la vérité. La volonté de vérité a besoin d'une critique. Définissons ainsi notre propre tâche. Il faut essayer une bonne fois de mettre en question la valeur de la vérité. Celui qui trouvera ces indications trop succinctes pourra relire le paragraphe du Gai Savoir qui porte le titre « Dans quelle mesure, nous aussi, nous sommes encore pieux » aphorisme 344. Ou mieux encore, tout le cinquième livre du dit ouvrage et aussi la préface de Aurore. Non, qu'on ne me vienne pas avec la science quand je cherche l'antagoniste naturel de l'idéal ascétique, quand je demande où est la volonté adverse en qui s'exprime un idéal adverse. Pour un tel rôle, la science est loin d'être assez autonome. Elle a besoin elle-même, en tout état de cause, d'une valeur idéale, d'une puissance créatrice de valeur qu'elle puisse servir et qui lui donne la foi en elle-même. Car, par elle-même, elle ne crée aucune valeur. Ses rapports avec l'idéal ascétique n'ont pas le caractère de l'antagonisme. On serait plutôt tenté de la considérer comme la force de progrès qui régit l'évolution intérieure de cet idéal. Si elle lui résiste et le combat, cette opposition, à tout bien considérer, ne s'attaque pas à l'idéal même, mais à ses ouvrages avancés, à sa façon de montrer et de masquer son jeu, à sa rigidité, sa dureté, son allure dogmatique. Elle a franchi le principe de vie qui est en son idéal, en niant tout son côté extérieur. Tous deux, la science et l'idéal ascétique, se tiennent sur le même terrain. Je l'ai déjà donné à entendre. Ils se rencontrent dans une commune exagération de la valeur de la vérité. Plus exactement, dans une croyance commune que la vérité est inestimable, incritiquable. Et c'est ce qui fait d'eux nécessairement des alliés. De sorte que, à supposer qu'on les combatte, c'est ensemble seulement qu'on peut les combattre et les mettre en question. Si l'on cherche à estimer la valeur de l'idéal ascétique, on est forcément amené à estimer la valeur de la science. C'est là un fait, et il importe d'ouvrir l'œil et de dresser l'oreille à temps. L'art, soit dit en passant, car en aucun autre endroit je reviendrai un jour plus longuement sur ce point, l'art, sanctifiant précisément le mensonge et mettant la volonté de tromper du côté de la bonne conscience, est, par principe, bien plus opposé à l'idéal ascétique que la science. Voilà ce que ressentit l'instinct de Platon, cet ennemi de l'art, le plus grand que l'Europe ait produit jusqu'à ce jour. Platon contre Homère. Voilà l'antagonisme complet, réel. D'un côté, le fanatique de l'au-delà, le grand calomniateur de la vie. De l'autre, son apologiste involontaire, la nature toute d'or. C'est pourquoi le vacelage d'un artiste au service de l'idéal ascétique constitue le comble de la corruption artistique. Malheureusement, une corruption des plus ordinaires, car rien n'est aussi corruptible qu'un artiste. Même au point de vue physiologique, la science repose sur les mêmes bases que l'idéal ascétique. L'un et l'autre supposent un certain appauvrissement de l'énergie vitale. C'est, dans les deux cas, le même tiédissement des passions, le même ralentissement de l'allure. La dialectique prend la place de l'instinct. La gravité pose son empreinte sur le visage et les gestes. La gravité, ce signe infaillible d'une évolution plus pénible de la matière, de difficultés et de luttes dans l'accomplissement des fonctions vitales. Voyez, dans l'évolution d'un peuple, les époques où le savant passe au premier plan. Ce sont des époques de fatigue, souvent de crépuscule, de déclin. C'en est fait de l'énergie débordante, de la certitude de vie, de la certitude d'avenir. La suprématie du mandarin ne signifie jamais rien de bon, tout aussi peu que l'avènement de la démocratie, que les tribunaux d'arbitrage remplaçant la guerre, que l'émancipation des femmes, la religion de la souffrance humaine et autres symptômes d'une énergie vitale qui décline. La science en tant que problème. La question de la signification de la science. Comparée à ce sujet, la préface de l'Origine de la tragédie. Non, cette science moderne Essayez donc de voir clair, est pour l'instant le meilleur auxiliaire de l'idéal ascétique. Et cela parce que le plus inconscient, le plus involontaire, le plus dissimulé, le plus souterrain. Ils ont jusqu'à présent joué le même jeu, les pauvres d'esprit et les adversaires scientifiques de l'idéal ascétique. Qu'on se garde, soit dit en passant, de prendre ces derniers pour l'antithèse de ceux-ci, pour les riches de l'esprit par exemple. Ils ne le sont pas. Je les ai nommés les rachitiques de l'esprit. Et ces fameuses victoires des hommes de science, sans doute ce sont des victoires, mais sur quoi ? L'idéal ascétique ne fut nullement vaincu, bien au contraire, il fut fortifié, je veux dire, rendu plus insaisissable, plus spirituel, plus séduisant. Toutes les fois qu'une muraille, un ouvrage avancé dont il s'était entouré et qui lui donnait un aspect grossier, était impitoyablement battu en brèche et démoli par la science. S'imagine-t-on vraiment que la ruine de l'astronomie théologique, par exemple, ait été une défaite de l'idéal ascétique? L'homme est-il peut-être devenu par là moins désireux de résoudre l'énigme de l'existence par la foi en un au-delà, depuis que, à la suite de cette défaite, cette existence est apparue comme plus fortuite encore, plus vide de sens et plus superflue dans l'ordre visible des choses? Est-ce que la tendance de l'homme à se rapetisser, sa volonté de faire petit, n'est pas, depuis Copernic, en continuel progrès? Hélas, c'en est fait de sa foi en sa dignité, en sa valeur unique, incomparable dans l'échelle des êtres. Il est devenu un animal sans métaphore, sans restriction ni réserve. Lui, qui, selon sa foi de jadis, était presque un dieu, enfant de Dieu, Dieu fait homme. Depuis Copernic, il semble que l'homme soit arrivé à une pente qui descend. Il roule toujours plus loin du point de départ. Où cela ? Vers le néant ? Vers le sentiment poignant de son néant ? Eh bien, ce serait là le droit chemin vers l'ancien idéal. Toutes les sciences, et non point seulement l'astronomie, dont l'influence humiliante et rapetissante a arraché à Kant ce remarquable aveu, elle anéantit mon importance. Toutes les sciences, naturelles ou contre-nature, c'est ainsi que j'appelle la critique de la raison par elle-même, travaillent aujourd'hui à détruire en l'homme l'antique respect de soi, comme si ce respect n'avait jamais été autre chose qu'un bizarre produit de la vanité humaine. On pourrait même dire qu'elles mettent leur point d'honneur, leur idéal austère et rude d'ataxie stoïque, à entretenir chez l'homme ce mépris de soi obtenu au prix de tant d'efforts, en le présentant comme son dernier, son plus sérieux titre à l'estime de soi. En quoi l'homme a raison, car celui qui méprise est toujours quelqu'un qui n'a pas désappris d'estimer. Mais est-ce là, en réalité, travailler contre l'idéal ascétique? Croit-on encore sérieusement, comme les théologiens se le sont imaginé un temps, que, par exemple, la victoire de Kant sur la dogmatique des théologiens, Dieu, âme, liberté, immortalité, est portée atteinte à cet idéal? Laissons pour le moment de côté la question de savoir si Kant a jamais eu le dessein de lui porter atteinte. Ce qui est certain, c'est que tous les philosophes transcendantaux ont, depuis Kant, de nouveau, cause gagnée. Ils sont émancipés de la tutelle des théologiens. Quelle joie ! Kant leur a révélé ce chemin détourné où ils peuvent désormais, en toute indépendance et avec la tenue scientifique la plus décente, satisfaire les désirs de leur cœur. De même, qui pourrait désormais en vouloir aux agnostiques, si pleins de vénération pour l'inconnu, le mystère en soi. Ils adorent, comme Dieu, le point d'interrogation lui-même. Xavier Doudan parle quelque part des ravages causés par l'habitude d'admirer l'intelligible, au lieu de rester tout simplement dans l'inconnu. Et il pense que les anciens n'avaient pas connu cet abus. À supposer que tout ce que l'homme connaît, loin de satisfaire ses désirs, les contrarie au contraire et leur fasse horreur, n'est-ce pas une échappatoire vraiment divine que d'en pouvoir rejeter la faute, non sur les désirs, mais sur la connaissance elle-même. Il n'y a pas de connaissance, donc il y a un Dieu. Quelle nouvelle elegantia syllogismil, quel triomphe de l'idéal ascétique. 26. L'histoire moderne, considérée dans son ensemble, affirmerait-elle par hasard une attitude plus confiante en face de la vie et de l'idéal? Sa suprême prétention, c'est aujourd'hui d'être un miroir. Elle rejette toute téléologie. Elle ne veut plus rien prouver. Elle dédaigne de s'ériger en juge et croit montrer par là son bon goût. Elle affirme aussi peu qu'elle nie. Elle constate, elle décrit. Tout cela est certainement de l'ascétisme, mais à un plus haut degré encore, du nihilisme, que l'on ne s'y méprenne pas. On remarque chez l'historien un regard triste, dur, mais résolu. Son œil regarde au loin devant lui, comme regarde l'œil d'un navigateur polaire, peut-être pour ne pas regarder en lui, pour ne pas regarder en arrière. Partout de la neige, la vie est muette ici. Les dernières corneilles dont on entend la voix croassent. À quoi bon? En vain, nada. Rien ne pousse et ne croît plus ici, si ce n'est la métaphysique pétersbourgeoise et la pitié à la Tolstoï. Pour ce qui en est de cette autre variété d'historiens, peut-être plus moderne encore, sensuelle en tout cas et voluptueuse, faisant des yeux doux à la vie, tout comme à l'idéal ascétique, qui se sert du mot artiste comme d'un gant, et monopolise aujourd'hui l'éloge de la vie contemplative. Oh, que ces doucereux intellectuels vous donnent soif d'ascètes et de paysages divers. Non, que le diable emporte toute cette tourbe contemplative. Combien je préfère encore errer avec les historiens nihilistes à travers les brumes moroses, grises et froides. Bien mieux, je consens, à supposer qu'on m'oblige à faire un choix, à prêter l'oreille même à un esprit peu doué pour l'histoire, anti-historique, comme ce Düring, dont la parole enivre aujourd'hui en Allemagne une fraction du prolétariat intellectuel, une variété timide encore et un peu honteuse de belles âmes. La species anarchistica. Les contemplatifs sont cent fois pires. Je ne sais rien qui me cause plus de dégoût qu'un de ces fauteuils objectifs, un de ces mignons parfumés de l'histoire, mi-prêtre, mi-satire, dans le goût de Renan, et qui trahit déjà, par le fossé aigu de ses homélies, ce qui lui manque, par où il est incomplet, où les cruels ciseaux des parcs ont exercé leur office. Hélas, trop chirurgical. Voilà qui révolte mon goût et aussi ma patience. Que celui qui n'a rien à perdre conserve sa patience en face d'un tel spectacle. Moi, je suis exaspéré. L'aspect de ces voyeurs m'irrite contre toute cette comédie, plus que la comédie elle-même. Je veux dire l'histoire, on m'entend bien. Je sens alors des fantaisies anacréontiques me monter au cerveau. Dame nature, qui au taureau donna les cornes et au lion les crocs d'une large gueule, pourquoi faire, me donna-t-elle le pied. Pour ruer par saint Anacréon, et non pas seulement pour me sauver, pour fouler aux pieds ses chairs vermoulues, ses lâches contemplatifs, ses concupiscents eunuques de l'histoire, tous ces raccrocheurs de l'idéal ascétique, cette impuissante tartufferie de la justice. Tous mes respects pour l'idéal ascétique, tant qu'il est sincère, tant qu'il a foi en lui-même et qu'il ne joue pas la comédie. Mais je ne puis souffrir toutes ces coquettes punaises qui mettent leur ambition sans frein à flairer l'infini, jusqu'à ce que l'infini fleure la punaise. Je ne puis souffrir ces sépulcres blanchis qui parodient la vie. Je ne puis souffrir ces êtres fatigués et aveulis qui se drapent dans la sagesse et se donnent un regard objectif. Je ne puis souffrir ces agitateurs travestis en héros qui saignent leur tête d'épouvantail à moineaux du home magique de l'idéal. Je ne puis souffrir ces comédiens ambitieux qui voudraient jouer les ascètes et les prêtres, mais ne sont que de tragiques pantins. Et je ne puis les souffrir non plus, ces nouveaux trafiquants en idéalisme, ces antisémites qui aujourd'hui tournent des yeux, frappent leur poitrine de chrétiens, d'ariens et de braves gens, et par un abus exaspérant du truc d'agitateur le plus banal, je veux dire la pose morale, cherchent à soulever tout l'élément bête à cornes d'un peuple. S'il n'est pas de hâblerie intellectuelle qui, dans l'Allemagne d'aujourd'hui, n'obtiennent quelque succès, cela tient à l'indéniable et déjà manifeste appauvrissement de l'esprit allemand, appauvrissement dont je cherche la cause dans une nourriture trop exclusivement composée de journaux, de politiques, de livres et de musique wagnérienne. À quoi il faut ajouter encore les causes qui expliquent le choix même d'un tel régime, l'exclusivisme et la vanité nationale, le principe fort mais étroit, l'Allemagne par-dessus tout. Ensuite aussi, la paralysie agitante des idées modernes. L'Europe d'aujourd'hui est riche avant tout en excitants. Il semble que rien ne lui soit plus indispensable que les stimulants et les eaux de vie. De là aussi, cette vaste falsification de l'idéal, cette eau-de-vie de l'esprit. De là aussi, cette atmosphère répugnante, empestée, chargée de mensonges et de pseudo-alcool que l'on respire partout. Je voudrais savoir combien de cargaisons d'idéalisme en toc, de travestissements héroïques, de crécelles grandiloquentes, combien de tonnes de sympathies édulcorées et alcoolisées, raisons sociales, la religion de la souffrance. Combien de pères des chasses pour noble indignation à l'usage des pieds plats intellectuels. Combien de comédiens de l'idéal chrétien et moral devraient être exportés d'Europe pour que l'air y fût quelque peu assaini. Évidemment, cette surproduction pourrait donner matière à un nouveau commerce. Évidemment, il y a une nouvelle affaire à entreprendre avec un petit assortiment d'idoles et d'idéalistes. Sachez mettre à profit cette indication. Qui aura le courage de tenter l'entreprise? Nous avons en main tout ce qu'il faut pour idéaliser la terre. Mais pourquoi parler de courage? Une seule chose est nécessaire ici. Je veux dire une main. Une main peu scrupuleuse, oh, combien peu. 27. Assez, assez. Laissons là ces curiosités et ces complexités de l'esprit moderne où l'on peut trouver autant matière à rire qu'à s'affliger. Car notre problème, précisément, peut se passer d'elle. Le problème du sens de l'idéal ascétique, qu'a-t-il à faire, en effet, avec hier et aujourd'hui? Je traiterai ces matières avec plus de profondeur et de dureté dans une autre étude, sous le titre de « Histoire du nihilisme européen ». Je renvoie, pour cela, à une œuvre que je prépare, la volonté de puissance, et c'est d'une transmutation de toutes les valeurs. Pour le moment, il me suffira d'avoir indiqué ceci. L'idéal ascétique, même dans les plus hautes sphères de l'intelligence, n'a pour l'instant qu'une seule espèce d'ennemi vraiment nuisible. Ce sont les comédiens de cet idéal, car ils éveillent la défiance. Partout ailleurs, dès que l'esprit est à l'œuvre avec sérieux, énergie et probité, il se passe absolument d'idéal. L'expression populaire de cette abstinence est « athéisme », à cela près qu'il veut la vérité. Mais cette volonté, ce reste d'idéal, est, si l'on veut m'en croire, cet idéal ascétique même, sous sa forme la plus sévère, la plus spiritualisée, la plus purement ésotérique, la plus dépouillée de toute enveloppe extérieure. Elle est par conséquent moins un reste que le noyau solide de cet idéal. L'athéisme absolu, loyal, et c'est dans son atmosphère seulement que nous respirons à l'aise, nous autres esprits spirituels de ce temps, n'est donc pas en opposition avec cet idéal, comme il semble au premier abord. Il est, au contraire, une phase dernière de son évolution, une de ses formes finales, une de ses conséquences intimes. Il est la catastrophe imposante d'une discipline deux fois millénaire de l'instinct de vérité, qui, en fin de compte, s'interdit le mensonge de la foi en Dieu. Dans l'Inde, la même évolution s'est accomplie d'une façon absolument indépendante, ce qui démontre l'exactitude de mon observation. Le même idéal aboutissant à la même conclusion. Le point décisif, atteint 5 siècles avant l'ère chrétienne avec Bouddha, ou plus exactement avec la philosophie Sankhya, popularisée plus tard par Bouddha et érigée en religion. Qu'est-ce qui a donc rigoureusement parlant remporté la victoire sur le Dieu chrétien? La réponse se trouve dans mon ouvrage Le Gai Savoir, aphorisme 357. C'est la morale chrétienne elle-même, la notion de sincérité, appliquée avec une rigueur toujours croissante. C'est la conscience chrétienne, aiguisée dans les confessionnaux, et qui s'est transformée jusqu'à devenir la conscience scientifique, la propreté intellectuelle à tout prix. Considérer la nature comme si elle était une preuve de la bonté et de la providence divine. Interpréter l'histoire à l'honneur d'une raison divine comme preuve constante d'un ordre moral de l'univers et de finalisme moral. Interpréter notre propre destinée ainsi que le firent si longtemps les hommes pieux, en y voyant partout la main de Dieu, qui dispense et dispose toutes choses en vue du salut de notre âme. Voilà des façons de penser qui sont aujourd'hui passées, qui ont contre elles la voix de notre conscience, qui, au jugement de toute conscience délicate, passe pour inconvenante, déshonnête, pour mensonge, féminisme, lâcheté. Et cette sévérité, plus que toute autre chose, fait de nous de bons Européens, des héritiers de la plus longue et de la plus courageuse victoire sur soi-même qu'ait remportée l'Europe. Toutes les grandes choses périssent par elles-mêmes, par un acte d'autosuppression. Ainsi le veut la loi de la vie, la loi d'une fatale victoire sur soi-même, dans l'essence de la vie. Toujours pour le législateur lui-même, finit par retentir l'arrêt « Patere legem, quam ipse tulisti ». C'est ainsi que le christianisme en tant que dogme a été ruiné par sa propre morale. Ainsi, le christianisme, en tant que morale, doit aussi aller à sa ruine, Nous sommes au seuil de ce dernier événement. L'instinct chrétien de vérité, de déduction en déduction, d'arrêt en arrêt, arrivera finalement à sa déduction la plus redoutable, à son arrêt contre lui-même. Mais ceci arrivera quand il se posera la question « Que signifie la volonté de vérité ?» Et me voici revenu à mon problème, à notre problème, ô mes amis inconnus, car je ne me connais encore aucun ami. Que serait pour nous le sens de la vie tout entière si ce n'est qu'en nous cette volonté de vérité arrive à prendre conscience d'elle-même en tant que problème? La volonté de vérité, une fois consciente d'elle-même, sera, la chose ne fait aucun doute, la mort de la morale. C'est là le spectacle grandiose en 100 actes, réservé pour les 2 prochains siècles d'histoire européenne. Spectacle terrifiant entre tous, mais peut-être fécond entre tous en magnifiques espérances. 28. Si l'on fait abstraction de l'idéal ascétique, on constatera que l'homme, l'animal, homme, n'a eu jusqu'à présent aucun sens. Son existence sur la terre était sans but. Pourquoi l'homme existe-t-il? C'était là une question sans réponse. La volonté de l'homme et de la terre manquait. Derrière chaque puissante destinée humaine, retentissait plus puissamment encore le refrain désolé, en vain. Et voilà le sens de tout idéal ascétique. Il voulait dire que quelque chose manquait, qu'une immense lacune environnait l'homme. Il ne savait pas se justifier soi-même, s'interpréter, s'affirmer. Il souffrait devant le problème du sens de la vie. Il souffrait d'ailleurs de bien des manières. Il était avant tout un animal maladif. Mais son problème n'était pas la souffrance en elle-même. C'était qu'il n'avait pas de réponse à cette question angoissée. Pourquoi souffrir? L'homme le plus vaillant, le plus apte à la souffrance de tous les animaux, ne rejette pas la souffrance en soi. Il la cherche même, pourvu qu'on lui montre la raison d'être, le pourquoi de cette souffrance, le non-sens de la douleur, et non la douleur elle-même, est la malédiction qui a, jusqu'à présent, pesé sur l'humanité. Or, l'idéal ascétique lui donnait un sens. C'était, jusqu'à présent, le seul sens qu'on lui eût donné. N'importe quel sens vaut mieux que pas de sens du tout. L'idéal ascétique n'était à tous les points de vue que la faute de mieux par excellence, l'unique pis-aller qu'il y eut. Grâce à lui, la souffrance se trouvait expliquée. Le vide immense semblait comblé. La porte se fermait devant toute espèce de nihilisme, de désir d'anéantissement. L'interprétation que l'on donnait à la vie amenait indéniablement une souffrance nouvelle, plus profonde, plus intime, plus empoisonnée, plus meurtrière. Elle fit voir toute souffrance comme le châtiment d'une faute. Mais, malgré tout, elle apporta à l'homme le salut. L'homme avait un sens. Il n'était plus désormais la feuille chassée par le vent, le jouet du hasard inintelligent, du non-sens. Il pouvait vouloir désormais quelque chose. Qu'importait d'abord ce qu'il voulait? Pourquoi? Comment plutôt telle chose qu'une autre? La volonté elle-même était du moins sauvée. Impossible d'ailleurs de se dissimuler la nature et le sens de la volonté à qui l'idéal ascétique avait donné une direction. Cette haine de ce qui est humain, et plus encore de ce qui est animal, et plus encore de ce qui est matière. Cette horreur des sens, de la raison même, cette crainte du bonheur et de la beauté, ce désir de fuir tout ce qui est apparence, changement, devenir, mort, effort, désir même. Tout cela signifie, osons le comprendre, une volonté d'anéantissement, une hostilité à la vie, un refus d'admettre les conditions fondamentales de la vie. Mais c'est du moins, et cela demeure toujours, une volonté. Et pour répéter encore en terminant ce que je disais au début, l'homme préfère encore avoir la volonté du néant que de ne point vouloir du tout.